avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
C'est la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Canu Info, si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission du Canu Info du jeudi 20 décembre 2018. Je suis toujours accompagnée pour ce Canu Info par Laurent, bonsoir à toi.
Bonsoir Delphine.
Nous allons parler de plein de choses ce soir, nous irons en Israël et en Palestine. Nous irons en Inde, nous parlerons ni Dieu, ni Maître, ni Père Noël ce soir, et oui, c'est deux saisons, toute une série, hein. Ça sera avec Laurent, nous te retrouverons assez longuement sur le sujet, avec les Pères Noël.
Oui, et ni Dieu, ni Maître.
Ah, je me doutais
le Père
bien.
Le Père Noël, il n'y a que la faute dessus.
Je me doutais bien. Nous aurons une petite partie sur les profiteurs, hein. Nous parlons peut-être d'Airbus, peut-être d'Uber, et peut-être de Thermomix, vous savez, la machine avec la secte, hein, là, qui fait chauffer les trucs dans une machine. Ouais, je plaisante sur la secte, merci. Nous parlerons des fachos, l'émancipation des femmes, d'énergie et d'environnement, enfin tout plein de choses. Mais quand même, je voulais saluer les fonctionnaires qui ont victorieusement gagné des droits. Alors attendez, non, on me dit dans l'oreillette que non, ce n'est pas tous les fonctionnaires. Alors attendez, on me dit oui dans l'oreillette que non, je me trompe totalement, qu'il s'agit juste des hommes et des femmes en bleu, les Robocop.
Ceux qui tapent, ouais. Si vous êtes fonctionnaire et que vous aidez les gens et que vous les tapez pas, alors, vous n'avez pas d'augmentation.
Il y a des flics
qui
tapent pas.
Ah,
mais en tout cas, il faut dire que
ceux qu'on rencontre, ils nous tapent.
Tu me permettras juste de commencer quand même ce Canu Info en expliquant à nos auditeurs, nos auditrices que, en même temps, tu ne connais pas beaucoup de membres de la police municipale ou nationale.
Non,
d'une manière générale, tu n'en as pas beaucoup dans ton entourage, donc non. En même temps c'est vite du vie quand tu me dis que tu ne connais pas de policiers qui ne tapent pas. En tout cas, si des fonctionnaires se battent, moi je pense évidemment aux enseignants dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, mais on pourrait parler au personnel de santé, au personnel du social, tous les fonctionnaires d'état, de la culture, de l'environnement, de l'écologie, enfin ils sont nombreux et nombreuses, il paraît même qu'ils seraient trop nombreux et nombreuses d'après certains partis extrême droite ou certains partis du milieu, vous savez, ce qu'on appelle le centre, souvent d'ailleurs plus à droite parce que le centre gauche, moi j'ai jamais bien compris ce que ça voulait dire. En tout cas, les messieurs dames de la police ont donc obtenu, sans même casser la moindre épicerie casino ou petit carrefour, ils ont obtenu, ça y est, des choses. Alors certes, il n'y a pas très longtemps, je vous disais qu'on avait quand même des gendarmes et des policiers policières qui avaient quand même des véhicules de fonction tout pourris, n'avaient pas les heures supplémentaires payées. Enfin, c'est vrai, pour des fonctionnaires, ça pourrait paraître scandaleux, sauf que bon, nous, on trouve qu'ils sont trop nombreux, donc ça nous pose problème. Alors évidemment, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Oui, mais tu vois, toi, t'es une femme, et quand tu te fais violer, t'es bien contente d'avoir du personnel de la police qui aille chercher ton violeur. » Ouais, alors je trouve que ça c'est un argument pourri, je commence à vieillir et j'en ai marre de cet argument. Et
puis surtout que quand on sait comment certaines femmes sont reçues dans les commissariats de police, on se dit que non.
Et alors, le pourcentage d'hommes et de femmes de la police qui accompagnent les personnes qui sont blessées dans leur chair, que ce soit par le viol, par le fait d'être tabassées, agressées dans la rue, hein, tout simplement, ou qui vont chercher des meurtriers, voyons voir, ils sont pas si nombreux que ça, quand même, en fait. On a plutôt une police qui est là pour la répression, la surveillance, la répression et la surveillance. Ouais. C'est-à-dire qu'il est là quand même pour le capital. Donc, on sait aussi, on comprend bien, évidemment, vous, là, les profs qui m'écoutez, je vais dire, on vous demande rien, en fait. Finalement, quand vous grognez et que vous voulez pas faire ce que l'État vous ordonne, ben, on vous laisse grogner. Par contre, les flics, on a besoin d'eux, parce qu'effectivement, on a besoin d'encadrer des manifestations, de faire rentrer les gens chez eux, que ça soit des gilets jaunes ou n'importe quel manifestant, des étudiants, des syndicalistes, ben, il faut les faire rentrer à la maison, hein, vite fait. Plutôt vite fait, d'ailleurs. Donc, on a besoin de caresser correctement les policiers et les policières de notre pays, de notre belle nation. Donc ben voilà, ils ont obtenu. Par contre, les autres fonctionnaires, ben, vous aussi, vous allez rentrer chez vous.
Ouais, et voilà. Et sans augmentation de salaire, c'est sûr.
Je rappelle juste que, parce que c'est important aussi, qu'il y a encore des nuits d'occupation dans les écoles. À Vaux-en-Velin, par exemple, ce soir, il y avait à 19h30, hein, si vous êtes dans le coin, devant le collège Gilbert Dru, ben, un nouveau rassemblement, parce que ça commence à faire un moment que dans cet établissement, on se préoccupe de ceux et de celles qui sont à la rue, des familles qui n'ont pas de toit, mais c'est le cas en fait dans toute la métropole de Lyon. Il y a des instits qui se mobilisent aux côtés de parents d'élèves et aux côtés de ces familles qui n'ont pas de toit, et que chaque hiver on a des familles à la rue, et que ça continue, et que ça continue, et que ça continue. Et ça, par contre, on trouve que l'État et son gouvernement sont beaucoup moins rapides à répondre à la demande de ces gens qui agissent aussi en solidarité, en soutien de ceux et de celles qui sont dehors. Voilà.
Alors moi je vais revenir sur une info que j'ai donnée la semaine dernière sur Israël-Palestine, sur le prix des droits humains de la République française qui était remis à deux organisations israéliennes et palestiniennes. Il y avait Al-Haq pour la palestinienne et B'Tselem, l'organisation de défense des droits humains israélienne. Toutes deux membres de la Fédération internationale des droits de l'homme. Donc j'avais parlé de ça, c'était sympa que la France symboliquement remette le prix. Sauf que depuis, il y a une petite info qui est sortie dans le Canard enchaîné d'hier, que je vais vous lire et vous donner, puisque en fait la France n'assume pas toujours, enfin là, quand je dis la France, c'est les imbéciles qui nous gouvernent, le gouvernement français, le président de la République, les ministres, tous ces gens-là. Puisque ce prix, hein, remis le 10 décembre dernier, qui était doté donc par Matignon, c'est-à-dire par le Premier ministre, Nicole Belloubet, là, vous savez, c'est la ministre de la Justice, devait honorer de sa présence la réception de remise du prix. Elle a trouvé une bonne excuse. Oh non, j'ai trop de travail, j'y vais pas. Bon, ok. Le Premier ministre, donc, puisque c'est le prix remis par lui, en fait, normalement, bah lui, non, carrément, il n'y est pas allé et il n'a même pas dépêché un ou une secrétaire d'État pour y aller. On se dit, qu'ils s'y font là ? Ils décident de donner un prix à deux associations qui luttent pour la défense des droits humains en Israël et en Palestine, et il n'y a personne pour remettre le prix. Et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est ce que nous révèle le Canard enchaîné, c'est qu'entre-temps, le gouvernement israélien a fait pression. Alors, je cite le Canard enchaîné, organisation juive de France, bon, on sait laquelle est puissante et laquelle fait influence. Il y a des chances que ce soit le CRIF, le Conseil représentatif, enfin, soi-disant représentatif des Juifs de France. C'est Le Monde qui l'a révélé en fait le 12 décembre. Et bon, bah voilà, du coup, la France a cédé aux pressions. C'est impressionnant parce que même au sein du Quai d'Orsay et de gens qui sont pro-israéliens, ils disent c'est inadmissible ce qui s'est passé. C'est inadmissible qu'un gouvernement français, sous la pression d'un gouvernement étranger, refuse d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Et c'est intéressant d'avoir cette critique parce qu'effectivement, aujourd'hui, de la part du gouvernement israélien, défendre les droits humains, c'est pas normal. Et on parle bien sûr de B'Tselem. Alors, Al-Haq, l'association palestinienne, c'est dans une logique raciste de l'État israélien. On comprend qu'ils rejettent l'association israélienne. Mais B'Tselem, c'est une association israélienne, par des Israéliens qui s'occupent exclusivement des atteintes aux droits humains en territoire occupé. Donc, il ne s'occupe pas du reste, parce qu'en Israël, il y a d'autres problématiques. Il ne s'occupe qu'en territoire occupé, donc en Palestine. Là, c'est quand même inadmissible que la France ne soit pas allée jusqu'au bout. Tout le monde est hypocrite, tout le monde recule. Alors, vous me direz, ce n'est pas étonnant. On sait très bien que le Premier ministre, que Emmanuel Macron, ils sont plutôt amis avec des régimes totalitaires, avec des dictatures. Hein. On les a vus faire ami-ami, financer, soutenir la dictature égyptienne ou la dictature saoudienne. Mais là, c'est quand même incroyable qu'ils donnent un prix à deux ONG et qu'au dernier moment, ils refusent de remettre eux-mêmes le prix. C'est juste qu'ils ont subi les pressions de certains groupes lamentablement peu démocrates et plus d'un État étranger. Et ils se sont soumis, comme quoi ils ont juste de la gueule, en fait. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout de la démarche, qui était une démarche plutôt sympathique.
Alors on va partir en Inde et je vais vous parler d'un reporter éditorialiste de la chaîne de télévision ISTV. Je m'excuse par avance si je prononce mal son prénom et son nom. Il s'agit de Kishore Chandra Wangkem. Alors il vient de prendre un an de prison pour une petite vidéo publiée sur le réseau social Facebook. Dans cette vidéo, il explique que le chef de l'exécutif de l'État du Manipur est la marionnette du Premier ministre M. Modi et de ce qu'on appelle le corps des volontaires nationaux qui s'appelle donc le Swayam Sevak Sangh. C'est une organisation paramilitaire nationaliste hindoue et qui est proche du BJP, hein, le parti au pouvoir.
Parti nationaliste.
Et oui, hindou.
Et religieux.
Tout à fait. Ça n'a pas plu. Donc, alors, il s'est fait arrêter suite à cette publication le 21 novembre dernier, dans la capitale régionale du Manipur. Là-dessus, il a été remis en liberté parce que le tribunal local a estimé que, bon, la vidéo, finalement, c'était une expression, un droit d'opinion. Surtout qu'il est journaliste, hein, comme je le disais. Et ben ça n'a pas pris aux autorités. Hein. Monsieur Modi, a priori, il a l'air de vouloir vraiment continuer à taper sur les journalistes en Inde. Donc là, on a fait intervenir la loi sur la sécurité nationale, carrément, le 26 novembre, hop, hein, quelques jours donc après le 21 novembre, il a été arrêté une nouvelle fois. Et donc là, il a appris qu'il allait prendre un an de prison sans jugement. Parce que ce qu'il y a bien avec ces lois sur la sécurité nationale, c'est que partout dans le monde, eh ben, nous prive un petit peu de nos droits. Et alors là, en l'occurrence, eh ben, c'est donc ce journaliste qui en fait les frais. Tout ça pour raconter finalement quelque chose qui est peut-être bien vrai quand même. Et c'est peut-être bien le problème de cette vidéo, c'est qu'il raconte quelque chose qui touche un petit peu à la vérité. Alors, vous pouvez en savoir un petit peu plus sur le site de Reporters sans frontières qui suit cette affaire. Il faut se souvenir qu'en juillet dernier, Reporters sans frontières avait déclenché une procédure d'alerte sur la place de l'Inde au classement mondial de la liberté de la presse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le pays a la 138e place sur 180. Yeah, ça s'enfonce en Inde. Le droit à l'expression, à la liberté d'expression, le droit des journalistes et à une presse libre, c'est pas gagné avec M. Modi et avec ce nationalisme hindou, excusez-moi. Voilà.
Voilà. Alors, je vais faire une grosse rubrique aujourd'hui.
Ouais,
ni
avec
Dieu,
le Père Noël.
Ni Dieu, ni maître, ni Père Noël, pour aller jusqu'au bout.
Je vais être pris.
Voilà. Je vais commencer par Cuba, puisque le gouvernement cubain a renoncé à inscrire la protection, le droit des homosexuels à se marier dans sa nouvelle constitution. Donc voilà, les défenseurs des droits des homosexuels et les défenseurs de l'égalité, des droits tout simplement, avaient proposé de supprimer la description du mariage telle qu'elle a été écrite, c'est-à-dire une union entre un homme et une femme. Ils proposaient de remplacer par une union entre deux personnes jouissant de droits et d'obligations absolument égaux. Ce qui est un terme bien plus large, bien plus inclusif, comme on dit maintenant. Le gouvernement a finalement annoncé mardi dernier qu'il renonçait à cette modification, c'est-à-dire il renonce à la légalisation du mariage homosexuel. Alors, vous me direz, c'est dans la rubrique ni Dieu ni maître. Bah oui, parce qu'il semble bien quand même que ce soit en premier lieu les idées religieuses des Cubains qui aient motivé le renoncement du gouvernement. On se dit, c'est bizarre, comment un régime communiste, parce que c'est quand même un régime communiste qui date maintenant depuis moult années, et encore ces idées religieuses présentes au sein de la population. Eh bien si, elles y sont malheureusement. Et en effet, on a vu les églises évangéliques, ainsi que des citoyens porteurs de ces idées-là, protester très fortement contre l'idée du mariage homosexuel à travers des réunions publiques consacrées à cette nouvelle constitution et à d'autres participations diverses et variées autour de la constitution et notamment de l'article 68. Donc voilà, c'est impressionnant. Alors c'est impressionnant pour deux trucs. D'abord que ces idées réactionnaires en grande partie portée par ces idées religieuses cubaines, et par donc des Cubains et des églises, arrive à faire changer ce gouvernement. On rappelle, ce gouvernement, c'est un gouvernement autoritaire, totalitaire. Il n'y a pas d'élection, il n'y a rien à Cuba. Jusqu'à maintenant, il passait des lois sans demander rien à personne. Et c'est la troisième fois qu'il recule devant, je sais pas, des choses qui viendraient du peuple. Alors on se dit, c'est peut-être positif que petit à petit la démocratie se mette en place. Bon, enfin, si la démocratie c'est pour donner la place aux idées religieuses et réactionnaires, c'est dommage quand même. Donc voilà, pour cette petite intro, ne dit ni maître ni Père Noël. On poursuit en Jordanie cette fois-ci, puisqu'on a appris plutôt une bonne nouvelle. Alors d'abord, ça commençait mal, hein, c'est deux journalistes jordaniens qui étaient accusés d'avoir porté atteinte à Jésus-Christ, qui avait été placé en garde à vue le 10 décembre dernier. Alors, porter atteinte à Jésus-Christ dans un pays majoritairement musulman, alors il y a à peu près 5 à 6% de chrétiens en Jordanie, qui sont regroupés, hein, on en croit, il y a certaines villes qui sont plutôt chrétiennes et la majorité du pays reste majoritairement musulman, mais la religion est prégnante et présente et importante, quels que soient finalement vos choix religieux. En tout cas, il faut avoir un choix religieux, sinon ça marche pas bien. Et ce journaliste, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris la scène, ce fameux repas avec Jésus-Christ, les apôtres et Judas, dessiné par Léonard de Vinci, qui est visible, je crois, à Milan. Et il a rajouté deux personnages dessus, dans une sorte de caricature. C'était pas méchant, hein, c'était juste pour illustrer un article, pas qui remettait en cause ni l'existence du Christ, ni les chrétiens, ni quoi que ce soit. Sauf que ça n'a pas plu aux chrétiens, jordaniens en tout cas, puisque ils ont déposé des plaintes. Alors il y en a eu jusqu'à 200 plaintes déposées contre le directeur du journal, qui a été inculpé pour incitation à la haine religieuse. Donc vous rajoutez un petit personnage, alors là c'était un cuisinier, il y a deux personnes qui étaient rajoutées, un cuisinier, et un serveur dans cette œuvre de Léonard de Vinci, c'est une incitation à la haine religieuse, c'est pas gagné quand même. Finalement, c'est un peu les chrétiens de Jordanie qui ont calmé le jeu, puisque le conseil des églises de Jordanie a fait une demande de pardon et de compassion auprès du procureur pour que les deux journalistes soient libérés, et ils ont été libérés le 12 décembre. Ils ont été aussi aidés de trois députés qui ont tout fait pour qu'ils soient libérés. Alors, ils sont libérés sous caution. On espère qu'il n'y aura pas de suite, ce qui n'est pas gagné non plus. Voilà ce qui se passe dans un pays comme la Jordanie, où la religion est partie intégrante de l'État. Où si jamais vous faites un truc un peu drôle sur la religion, eh ben vous allez en taule. Ceci dit, ce n'est pas forcément beaucoup mieux chez nous, même si on a quand même largement plus de liberté de critiquer la religion chrétienne, ça c'est sûr. Par contre, critiquer d'autres religions... c'est plus compliqué, et c'est encore Zined El Razoui qui en fait les frais, puisque cette ancienne journaliste franco-marocaine de Charlie Hebdo a osé dire cette chose horrible. Je le cite, c'était à la télé, elle a dit « Il faut que l'islam se soumette à la critique, qu'il se soumette à l'humour, qu'il se soumette aux lois de la République, qu'il se soumette au droit français. » En fait, ce qu'elle a dit, c'est ce que normalement tout le monde doit faire, et toutes les assos doivent faire, tous les mouvements politiques doivent faire, toutes les religions doivent faire, toutes les sectes doivent faire. Sauf que comme elle le dit sur l'islam, c'est mal perçu. Donc elle a eu droit à des menaces de mort, des menaces de viol, hein. Alors bien évidemment de la part de croyants, mais pas forcément de la part de tous les imbéciles sexistes, machos qu'on puisse imaginer. Donc voilà, son avocat a déposé plainte mardi pour contre ces menaces de mort, en espérant qu'ils vont retrouver les personnes qui ont posté ces messages. C'est essentiellement sur les réseaux commerciaux qu'on connaît, Twitter, Facebook et autres réseaux capitalistes. Alors, c'est pas la première fois. On sait qu'elle elle défend la laïcité. Elle, elle a suffisamment vécu les problématiques, les haines de pas vouloir adhérer à une religion. Donc, pour savoir ce que c'est, elle a déjà eu plusieurs fatwas hein, sur sa tête. C'est pas facile pour elle. Donc voilà. Et elle, du coup, elle a remis une couche en disant, bah ouais, pour elle, la religion, l'islam, comme toutes les autres religions, doivent se soumettre aux lois de la République. Bon, il faudrait. Bon, on n'est pas toujours pour se soumettre aux lois de la République, mais à l'humour, à la raison, à la critique. Eh ben, je lui souhaite bonne chance parce que c'est, toutes les religions n'aiment pas ni l'humour, ni la raison, ni la critique. Hein, on le sait très bien. Donc voilà, elle a repris encore un coup sur la tête. On va aller en Hongrie maintenant. Ah, la Hongrie, vous savez, c'est ce pays où les populistes, les nationalistes du parti de M. Orban ont gagné les élections. Donc Orban est à la tête du pays. Ils avaient mis, depuis la rentrée scolaire de 2018, hein, septembre 2018, un kit pédagogique donné aux enseignants pour, je cite, « éveiller la conscience nationale, les valeurs culturelles chrétiennes, l'attachement à la patrie et à la famille ». C'est un truc très, pour nous, c'est très pétainiste, c'est très extrême droite religieuse, tout ça. Bah pour eux aussi, finalement. Grosso modo, ça c'était à la rentrée scolaire 2018. Là, ils remettent une couche. Ils se disent, bon, c'est pas normal. Avant, ça veut dire quoi? C'est avant l'arrivée du communisme, donc il y a quelques années de cela, il y a moult années, la religion chrétienne était très forte dans l'éducation. Ils avaient 22% des écoles, étaient très fortes au sein des gouvernements, au sein de tout en fait. Et après le passage du communisme, il ne restait que 4% d'écoles catholiques. Donc pour Orban et ses amis d'extrême droite chrétienne, c'est pas possible. Donc ils ont lancé différents mouvements, différentes idées, différentes lois, ce kit pédagogique, pour essayer de faire redévelopper les écoles catholiques, tout ce qui tourne autour du christianisme, en fait. Voilà. Alors, là, la dernière étape, c'est de redonner plus de subventions aux écoles confessionnelles, hein, pour essayer de remonter. Alors, ils sont déjà remontés à 10% hein, par rapport à la fin du communisme, où on était à 4% d'écoles confessionnelles. Là, ils en sont à 10%. Ils trouvent que c'est pas assez. Et je vais citer le secrétaire d'État qui, lorsqu'on lui demande, mais officiellement, l'État est censé être neutre religieusement, lui répond, je cite, « On ne peut pas éduquer les enfants en leur disant qu'il n'y a pas de vérité, en restant à la même distance de tout. Nous ne voulons pas que les futures générations deviennent sans valeur. » Car pour lui, pour ses amis d'extrême droite chrétienne qui présente en Hongrie, les valeurs humanistes non religieuses, hein, la défense des droits humains, des droits des homos, l'égalité homme-femme, l'égalité des sexes, l'égalité suivant l'orientation sexuelle, tout ça, bah non, ça fait pas partie des idées, des valeurs qui existent et qui sont respectables. Donc voilà, il y a un vrai retour hein, quand même du religieux en Hongrie, en plus du régime autoritaire qui est en place. Mais pas mal de gens relativisent, ils disent « mais attendez ». Les Hongrois, ils sont pas bêtes non plus, ils vont plier, ils vont faire semblant, et c'est pas forcé que la religion chrétienne se développe tant que ça. Donc voilà, il y a aussi quand même une certaine résistance parce que le pays a grandi à une culture peu religieuse. C'est peut-être un des rares effets positifs des dictatures communistes qui ont eu droit. Mais du coup, voilà, c'est pas sûr que toutes les campagnes qu'ils mènent soient si efficaces que ça. Mais en tout cas, ils essayent. Allez, maintenant, deux infos un peu drôles. Parce qu'il faut rire un peu avec les imbéciles religieux intégristes. Alors, le premier, c'est des chrétiens, encore, qui sont pas contents d'une affiche de Deadpool. Alors, je sais pas si vous avez vu, donc Deadpool, hein, une espèce d'anti-héros hollywoodien. Il y a une affiche où Deadpool, il fait une sorte de signe de croix en l'air avec un fond blanc. On imagine un peu des anges, parce qu'effectivement, c'est une sorte de parodie d'une œuvre de Harry Anderson qui s'appelle La Seconde Venue du Christ. En tout cas, ça fait référence à ça. Bon, c'est une parodie, un film de super-héros décalé. Enfin bon, ça va pas plus loin que ça. Il n'y a pas d'idée ni politique ni anti-religieuse derrière Deadpool, bien évidemment. C'est juste un produit commercial hollywoodien. Alors tu dirais s'il y a peut-être
parce Laurent Deadpool, me voit secouer la tête.
Ouais,
parce
Deadpool, il est un peu quand même.
Il est carrément irrévérencieux. Et les films, c'est vrai qu'au cinéma, pour certains et certaines, c'est extrêmement vulgaire. Alors si vous avez des enfants, je vous demanderai juste de leur boucher les oreilles deux secondes quand ils sont petits, mais ils parlent de sodomie, mais dans le plaisir, c'est-à-dire que avec sa copine, ouais. il parle de plaisir pour de vrai. Hein. Je veux dire, c'est pas des termes d'insulte. Il parle beaucoup de sexualité, et puis il a des propos avec les méchants qui sont souvent sur le sexe, le cul, mais plein d'autres choses. Et il va s'en prendre à tout le monde, dont les religions. Donc d'une manière générale, Deadpool, ça plaît pas à ceux et celles qui ont une morale chevillée au corps.
Voilà.
Mais je vais le dire comme ça.
Mais du coup, ces chrétiens, ils attaquent pas le personnage, ils attaquent pas ce qu'il y a dans le film.
Parce que ça doit les choquer quand
pour
même.
Ils ont jamais dû voir en fait un film de Deadpool, un des deux Deadpool.
Même la BD, hein, je pense, ouais. Ils ont jamais lu. Y aller dedans.
Alors là, il faut savoir que c'est un nouveau Deadpool qui est soft. Un Deadpool light qui sort, qui est une compilation, une réécriture des deux premiers Deadpool qui n'étaient pas visibles pour les petits, parce que pas du tout. Et là, c'est une réécriture, du coup, c'est un produit édulcoré qui nous sort. Mais voilà, ils ne sont pas contents, juste parce que, pour eux, ça moque le Christ. Oh, ils comprennent rien à rien, c'est chrétien intégriste. Voilà, ils ont fait une pétition, du coup. L'idée, c'est qu'il ne faut pas moquer le Christ, c'est mal. Et deuxième info drôle, allez, je vais parler de Lyon, de Noël, parce que cette fois Noël arrive avec ses religieux de tous bords. En fait, c'est quelqu'un qui s'appelle Muriel Coativi, que je ne connaissais pas, qui est la déléguée départementale du Rassemblement National du Rhône, donc partie d'extrême droite, qui estime que Lyon s'est paré uniquement de simples restes de la fête des Lumières pour fêter Noël. Elle, comme, alors je vais la citer jusqu'au bout, finit les troquets proposant vin chaud et marron grillé. Enfin, les bars, ils proposent ce qu'ils veulent, hein, on va lui expliquer un peu la liberté de vendre, tout ça, bon, bref. Au placard, notre cher Père Noël débonnaire distribuant bonbons et papillotes. Moi, j'ai jamais vu des Père Noël débonnaires distribuant des bonbons et des papillotes dans la rue. Enfin, bon, bref, elle a dû vivre dans un autre monde. Et je continue. Et je ne parle même pas de crèche, puisqu'aujourd'hui, si vous vous promenez dans la rue avec une crèche sous le bras, c'est comme si vous aviez une bombe dans la main.
Ah, c'est vrai que balade-toi avec ta crèche sous le bras, en même temps, pardon.
Mais en fait, déjà, c'est faux. Si vous passez devant un flic avec une crèche sous le bras, il va rien vous dire. Pâcher devant un flic avec des bâtons de dynamite, je pense que vous êtes mal. Donc elle raconte n'importe quoi, cette Muriel Coativi. Mais elle se plaint aussi que le marché de Noël Place Carnot soit grillagé avec des contrôles. Bah oui, il y a des attentats, tout ça, c'est compliqué.
Nous aussi, hein, ça nous gêne. Hein.
Oui, mais j'adore sa phrase. La phrase finale. Elle dit, donc, elle condamne, elle dit, tout ça c'est de la faute de GG. Gérard Collomb.
Ah, bah oui.
Alors, on va pas défendre Gérard Collomb, que nous détestons. Ah bah non. Mais quand même, là, pour le coup, c'est elle qui a la rue, parce qu'elle dit le maire de Lyon prend sciemment les Lyonnais en otage de son idéologie franc-maçonne pour mettre fin à des siècles de tradition judéo-chrétienne. Quand on sait que Gérard Collomb s'agenouille devant les religions régulièrement, on se dit eh ben, elle connaît rien à rien, elle est vraiment ridicule. Bon, bref, elle accuse Collomb de transformer Noël de fête religieuse à fête commerciale, quelque part.
Alors, Père Noël, pardon, mais côté commercial, ça se pose.
On rappelle que c'est inventé par Coca-Cola il y a quelques années, que la fête de Noël chrétienne n'a rien à voir à ça, qu'on l'emmerde, la fête Noël chrétienne, comme on emmerde la fête Noël commerciale. Les papillotes. Mais on aime le chocolat, mais.
Oui, mais bon.
Bon, bref, et on l'emmerde elle aussi. Parce que
correctement, s'il te plaît. Pardon.
Mais n'empêche qu'elle sort des trucs, tout est faux dans ce qu'elle dit, c'est du pur mensonge. Et c'est presque insultant. Alors, pour Gérard Collomb, nous défendrons pas.
Je crois
pas,
qu'elle s'est fait beaucoup moquer sur les réseaux commerciaux.
Oui, mais elle méritait ça, et ouais. Je vais moquer d'elle une dernière fois. Donc ni Dieu, ni maître, ni Père Noël, c'est la fin de cette rubrique du canu info.
Pardon.
C'est à toi. Ouais. Ah non, c'est à toi. Les profiteurs. Voilà. Un peu de capitalisme maintenant.
Comment tu veux que j'enchaîne là-dessus? Alors, je vais retrouver mon sérieux et on va parler tout de suite Thermomix, parce que ça se trouve, il y en a certains d'entre vous et certaines d'entre vous.
Non, on n'en a pas.
Non. T'en as pas chez toi.
T'en as pas.
Enfin, mais non, j'ai pas ça chez moi, écoute. Donc, Thermomix, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un robot cuiseur qui se vend d'une manière particulière.
Un peu comme avant...
les tupperwares.
Les tupperwares, voilà. Exactement le même principe.
Et de... quand je parle de secte, c'est très particulier parce que...
Il faut connaître quelqu'un qui en a un qui peut vous intégrer dans le machin.
Puis les gens se racontent entre eux. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur deux personnes qui se parlent de recettes Thermomix et c'est toujours un petit peu secret. Quand on n'est pas dedans, ça peut paraître très curieux parce qu'il paraît que c'est un machin qui marche bien. Alors, c'est l'allemand Vorwerk qui fait cette petite chose, ce robot cuiseur. Alors, c'est une boîte au capital familial, hein, une boîte allemande. Et on apprend par la presse éco allemande que Thermomix risque de licencier. Alors, on parle pour l'instant de 320 emplois dans le monde. Alors, vous me direz, c'est pas beaucoup, hein, mais 165 en Allemagne sur 3300 salariés. Et là, d'un coup, on se dit, ah, quand même, en fait, au niveau du pourcentage, c'est pas mal. Et puis, peut-être que ça va toucher l'usine qui se trouve en Nord-et-Loire, donc sur le territoire de la France. C'est l'usine de Cloix sur la Loire, dans laquelle est fabriqué le robot cuiseur. Là, par contre, c'est une filiale. Il y a pas mal de salariés et on parle aussi peut-être d'une réduction des effectifs sur ce site. Il faut dire que Thermomix, ça a pris une explosion absolument incroyable. Alors, c'est une boîte assez fermée, on ne connaît pas bien les chiffres, on ne connaît pas les bénéfices. Par exemple, c'est l'entreprise qui ne publie pas réellement ses résultats. Les derniers rapports, on ne les connaît pas, donc on ne connaît pas les bénéfices. Mais en tout cas, ce qu'on pense, c'est qu'il y a eu l'année dernière pour plus d'un milliard d'euros de ventes.
Ouais, faut dire que je crois que ça coûte une blinde.
Une blinde. On a même vocabulaire. Excusez-nous, ça coûte très cher.
Devant le succès, ils ont quand même été beaucoup copiés.
Et
par
c'est bien ça le problème, c'est que c'est très cher, très très cher. Hein, j'ai plus de 1000 euros, hein, le machin quand même. Voilà. C'est copié par d'autres qui sont beaucoup moins chers. Et puis c'est un système de vente un peu particulier. Donc tant que ça, alors ça c'est beaucoup développé et donc ils ont embauché des gens dans les différentes usines, sous-traitantes, des filiales et donc forcément, bah, y a un moment, quand ça se casse la figure, eh ben, on met les gens dehors. Alors on parle de 15% de recul en France, 22% de recul en Allemagne au niveau des ventes. Alors il y a des nouveaux marchés, hein. On parle de l'Espagne par exemple et de la Chine, bien évidemment, ce qui sont les nouveaux territoires, mais n'empêche qu'effectivement on risque d'ouvrir plutôt des usines ailleurs plutôt que conserver celles qui sont en Allemagne et en France. Donc c'est sur les sites de production qu'il risque d'y avoir des réductions de personnel. Je dis qu'il risque parce qu'on n'a encore pas de confirmation, hein, de cette entreprise Vorwerk. Mais effectivement, il y a un marché à saturation, parce que bah, y a un moment, un robot cuiseur qui remplace un robot cuiseur qui remplace un robot cuiseur qui remplace un robot cuiseur, ça reste un robot cuiseur et que il y a beau y avoir des fans qui vont acheter comme chez Apple le dernier objet technologique qui va bien, reste que c'est quand même des sommes assez importantes et que finalement les gens ne renouvellent pas souvent leur appareil, qu'effectivement il y a quelques gens qui rejoignent la secte Thermomix, mais que finalement ça va pas assez vite, en tout cas sur les territoires historiques comme l'Allemagne, excusez-moi, et la France. Et puis il y a cette concurrence, hein, qui arrive très très fortement. Alors on paraît-il que la solution ça va être de se diversifier pour cette entreprise allemande. Alors il y a une machine à thé. Alors j'ai lu ça sur plusieurs sites éco, parce qu'à mon avis ils ont dû faire des communiqués de presse pour Noël, ouais, tu vois,
pour essayer de vendre leur machine à thé.
Voilà, il paraît que ça vaut 600 euros.
Oh putain, pour faire du thé, ouais. Alors que avec ton,
oui, tu fais chauffer l'eau dans une casserole ou dans une bouilloire, tout à fait. L'entreprise fait aussi de l'argent sur les ventes d'abonnements, parce que pour faire fonctionner ta machine robot cuiseur, on te donne des recettes.
Ouais, que tu peux intégrer avec une clé USB ou un machin comme
ça. J'en sais rien, mais ouais, c'est ça.
Parce que ça cuisine tout seul, tu mets les ingrédients, ça se débrouille, hein, je crois, c'est un truc.
Oui, on va faire le suivi conso si tu veux juste derrière. Parce qu'il y a des forums spécifiques, enfin bon, c'est un vrai truc, moi je connaissais pas. Donc c'est pareil, ils se développent aussi sur ça. Et alors je vais terminer juste en vous disant que. Il n'y a pas très longtemps, on a parlé du plan Sanofi qui s'appelle Horizon
2020.
Voilà. Chez Vorwerk, a priori, le plan s'appelle New Horizon.
Oh yes.
Oh yes, l'horizon, il va vite être fermé, a priori, quand même, pour certains salariés. Je continue donc avec les profiteurs. Vous avez certainement entendu qu'Airbus a de nouveaux soucis. Alors, c'est Le Monde, hein, qui a dévoilé certaines informations. Alors, il faut se souvenir que Airbus avait déjà des soucis, que Airbus a semblé vouloir pactiser avec certaines justices en Europe pour éviter le Department of Justice in America, c'est-à-dire le département de la justice des États-Unis d'Amérique qui, vous savez, c'est le truc qui s'en est pris à Alstom, à la Société Générale.
Ils sont poursuivis pour quoi ?
Corruption, c'est pas un truc comme ça ? Alors, en fait, c'est un sujet qui touche un certain nombre d'entreprises, c'est qu'ils ont eu recours, a priori, à des intermédiaires, ce qu'on appelle en anglais les business partners, et que c'est permis, sauf qu'il faut que ces partenaires soient très clairement identifiés, identifiables, et qu'on sache pourquoi ils interviennent dans les discussions pour avoir un marché. A priori, chez Airbus, certains de ses business partners sont peu transparents, et c'est sur cette question-là qu'Airbus a déjà des soucis, et en a de nouveau, a priori, avec le département de justice des États-Unis d'Amérique. Donc, je vous le disais, c'est Total, on se souvient de la Société Générale qui s'était fait attraper, d'Alcatel, d'Alstom, enfin, voilà. Et on parle souvent d'amendes extrêmement importantes. Alors là, pour Airbus, c'est quand même un peu une catastrophe a priori. Alors parce que d'abord on parle d'une amende qui pourrait avoir un record, on parle de milliards de dollars ou d'euros, ce qui revient à peu près au même, vous me direz. Mais on parle aussi d'une condamnation pénale. Et alors là, la catastrophe pour Airbus, c'est de ne plus pouvoir être sur les marchés américains. Et donc de ne plus pouvoir concurrencer Boeing. Et alors ça, c'est une vraie catastrophe pour Airbus, parce que je vous rappelle que les deux constructeurs sont quand même à la manœuvre. Il y en a quelques d'autres, des constructeurs, mais enfin, c'est quand même les deux constructeurs d'avions qui se battent pour obtenir des marchés dans le monde. Et dès qu'il y en a un qui arrive à souffler un marché à l'autre, on en entend parler. Parce que c'est extrêmement important, c'est des pertes financières pour l'autre. Donc si jamais on savait qu'il y avait eu fraude de la part d'Airbus, que les comptes n'étaient pas transparents, qu'il y a eu des intermédiaires pas transparents dans des négociations pour obtenir des marchés, ça peut être une catastrophe pour Airbus. C'est pas bon, parce qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de choses, bah évidemment ça touche derrière les salariés. Alors pour la petite info, ça n'a pas plu à la bourse, à Paris. Sur l'ensemble de la journée, on parle de 5% de baisse, du titre. Et alors à un moment, ça a même perdu 7,4%. Ça n'a pas du tout plu aux investisseurs. Voilà. Bon, c'était pour Airbus. Et puis alors Uber qui a pris une amende, vous êtes au courant, 400 000 euros de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. C'est ce qu'on a pris aujourd'hui. Alors c'est pour une affaire qui remonte à 2016, c'est-à-dire que 57 millions de personnes s'étaient fait dérober d'utilisateurs leurs données à travers le monde. On parle de à peu près 1,4 million sur le territoire français. Ça n'a pas plu à la CNIL, qui a estimé que Uber n'avait pas suffisamment protégé, sécurisé les informations de ses utilisateurs. On parle de nom, de prénom, d'adresse mail, de numéro de téléphone. Ça ne plaît pas à la CNIL. Alors la chance de Uber, c'est quoi ? C'est que tout ça, ça est arrivé avant les nouvelles règles du RGPD, donc de la protection des données personnelles, parce que sinon, Uber aurait ramassé cher.
Plus.
Mais cher, je vous dis même pas, comme Uber aurait pris beaucoup plus, puisqu'on parle jusqu'à présent de 4% du chiffre d'affaires qui peut être sanctionné au niveau européen. Donc Uber, finalement, 400 000 euros, c'est une petite
amende.
Ils s'en sortent vraiment très très bien. Alors on a des grandes promesses d'Uber qui nous assurent que plus jamais ça n'arrivera. On se rappellera juste que Uber avait mis un peu du temps à expliquer à ses utilisateurs que, en fait, il s'était fait pirater. C'est-à-dire que c'est encore une de ces entreprises qui, jusqu'à présent, ne soulevait pas le problème ouvertement et publiquement, et ne faisait pas passer d'informations à ses utilisateurs. On espère qu'avec ce nouveau RGPD, les entreprises sont normalement censées faire savoir à la CNIL, et c'est pareil dans le reste de l'Europe, de l'Union européenne, faire savoir tout de suite quand il y a une perte et une fuite de données. Parce que jusqu'à présent, les entreprises se cachaient et étaient très très peu transparentes sur la question. Là, Uber, du coup, profite un petit peu d'avoir un passif là derrière. Mais c'est pas la première fois que Uber est condamné. La version néerlandaise, hollandaise de la chose, de la CNIL, excusez-moi, avait mis 600 000 euros d'amende. Et puis, je crois qu'il y avait eu aussi, côté britannique, 430 000 euros aussi d'amende. Donc Uber, un peu des spécialistes, qui a beau être une start-up à la base, a priori n'a toujours pas su embaucher des geeks suffisamment bien formés pour éviter une fuite de données, alors qu'on est quand même essentiellement une entreprise qui utilise des données personnelles sur Internet. Voilà.
Très bien, je vais parler brièvement du parti politique Les Républicains, qui marche main dans la main avec leurs amis d'extrême droite du Rassemblement National au sujet du fameux pacte de Marrakech, puisque il y avait un... Alors, pas un débat à l'Assemblée nationale, mais en commission liée à l'Assemblée nationale, pour discuter, donner son avis sur la signature du pacte de Marrakech. Et ni les élus républicains, ni le Rassemblement national n'ont daigné venir à cette réunion de la commission, en commission. Pourtant, on a vu le parti de droite et le parti d'extrême droite hurler contre ce fameux pacte de Marrakech, hein, donc on rappelle qu'il a été ratifié hier, je crois, officiellement. Alors on se dit, mais pourquoi ils font ça? Ils font pas ça. Ils vont pas discuter, ils sont pas d'accord avec ce pacte de Marrakech, ils vont pas en discuter. Bah, c'est parce qu'ils assument pas du tout, parce qu'on sait que leurs critiques qui ont été pas mal relayées, hein, par les Gilets jaunes, on a vu à pas mal d'endroits les Gilets jaunes et les élus républicains et les élus Rassemblement National et les élus de tous les partis d'extrême droite, Dupont-Aignan et compagnie, se servir de ce mouvement de contestation pour aussi contester le pacte de Marrakech, hein. On rappelle la belle banderole qui était en tête de manif à Lyon il y a 15 jours, c'était écrit non à Marrakech, et en fait le problème c'est que tout ce qui critique sur ce pacte de Marrakech est faux, aussi bien de la part du Front National, du Rassemblement National que des Républicains. Ils n'ont pas de vrais arguments. On rappelle que c'est un pacte non contraignant, qui est un truc un peu de bisounours. Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui migrent? Quand on sait qu'avec les problèmes climatiques, on va avoir de plus en plus de migrants climatiques, de personnes qui vont fuir des zones qui vont devenir invivables, il y a besoin d'avoir un texte un peu générique pour dire comment faire et quoi faire et comment gérer les migrants. Mais c'est pas contraignant, mais du coup toutes les extrêmes droites et tous les partis de droite un peu durs en Europe se sont mobilisés, notamment on a vu en Belgique le parti, un des partis d'extrême droite, le parti nationaliste flamand, s'opposer et quitter le gouvernement et donc faire sauter le gouvernement belge qui se retrouve sans gouvernement. Alors c'est pas grave parce que la Belgique a l'habitude d'exister sans gouvernement, ils ont le record mondial d'un pays qui survit sans gouvernement. Mais bon, voilà, c'était juste pour dire que M. Wauquiez a beau se défendre de pas marcher sur les plates-bandes de l'extrême droite, à tout moment, en permanence, ils sont exactement sur la même ligne politique que le Rassemblement National. Ce qui est une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle le parti est en train de couler. Parce que, si les fachos qui veulent voter pour le Rassemblement National, pour ces idées-là, en tout cas, ils vont aller voter pour le Rassemblement National et pas pour les Républicains. Le positionnement très à droite et proche de l'extrême droite fait par Laurent Wauquiez et ses amis semble quand même un petit peu dommage pour les militants de droite conservateur. Enfin, on s'en fout des militants de droite conservateurs, tu vas me dire. Bon, d'accord. Enfin, voilà, il est en train de faire disparaître cette droite conservatrice, la faire fondre dans le Rassemblement National.
Ouais, parce que moi, je suis un peu choquée quand même par ton titre, la droite de M. Wauquiez, l'extrême droite de Mme Le Pen, main dans la main. La droite de M. Wauquiez, je veux bien que nous changions le déroulé sur Internet tout à l'heure.
Ouais,
et bien qu'on droite, écrive mais... l'extrême droite de M. Wauquiez, non ?
On pourrait dire ça aussi, ouais.
Voilà, c'était
alors,
juste.
Je continue et je vais donner deux petits exemples comme pour montrer que le vélo peut être un élément, un outil d'émancipation des femmes. Et j'ai trouvé deux exemples. Le premier, c'est la Tunisie, puisque depuis quelques semaines, il y a des réunions, des rassemblements, alors ils ne sont pas beaucoup, hein, les week-ends, pour apprendre à faire du vélo, puisque dans ce pays, comme dans d'autres pays, notamment des pays musulmans, faire du vélo, c'est mal vu. Et les femmes, du coup, ne savent pas faire du vélo. Les petites filles ne font pas du vélo, en fait. Parce que dès qu'on est petite fille, c'est soi-disant indécent. On marche, ouais. Soi-disant indécent de faire du vélo. Et depuis quelques temps, des femmes se réunissent dans un parc en Tunisie pour apprendre à faire du vélo. Et donc elles se regroupent comme ça et elles apprennent à faire du vélo sur des petits vélos, sur des plus gros vélos, etc. Donc voilà, c'est un exemple que le vélo peut être un outil émancipateur. Parce qu'en fait, le vélo était un outil discriminant. Je ne sais pas comment c'est venu à l'idée des machistes religieux de ces pays-là de dire que le vélo, c'était mal pour les femmes.
Parce que la femme, du coup, elle est autonome aussi, elle peut se déplacer, d'aller à un point B sans être accompagnée. Parce qu'en plus, les vélos, ben, t'es souvent un peu tout seul, même si t'as gens sur le porte-bagages ou sur le cadre à l'avant. En vrai, c'est quand même aussi un objet qui te permet un peu de liberté, quoi, qui te permet d'aller vite, d'aller ailleurs. ah oui, d'être mobile. Hein. Ouais,
j'ai eu écho qu'en France, ça a été un peu ça aussi, parce qu'il y a très longtemps, hein, pour le coup, il y a peut-être plus de 100 ans, où le vélo était mal vu aussi pour les femmes, parce qu'elles étaient obligées, parce que c'était pas facile de faire du vélo en jupe, et qu'il fallait donc mettre un pantalon, et que le pantalon était mal vu par toutes les instances religieuses chrétiennes de France, il y a une lointaine époque, hein, bien évidemment. Donc c'est un peu ça qui se reproduit, on a l'impression, dans ces pays qui n'ont pas évolué finalement, qui sont toujours un peu des pays proches du Moyen-Âge au niveau de la pensée, de l'égalité.
Ouais, parce que le printemps arabe, finalement, la Tunisie a un petit peu avancé. Il y a quelques évolutions. Il y a eu les premières élections municipales, il n'y a eu pas très longtemps.
C'est le seul pays qui a avancé.
Ça a un petit peu avancé, mais enfin, ça reste. Pour en avoir discuté il n'y a pas très longtemps avec une Tunisienne, un pays avec une répression toujours assez féroce, dès qu'on veut faire des choses un petit peu différentes et qui sont des nouveautés. Donc il se passe plein de choses en Tunisie, que ça soit sur effectivement la position des femmes, la liberté des femmes, le droit de penser, d'avoir de l'expression libre, le droit de créer dans l'agriculture, dans plein de choses, dans plein de domaines, dans la culture. Mais ça reste un pays où il y a une répression toujours très importante et très féroce, et donc il y a plein de choses qui se passe, mais un peu clandestinement, il faut bien le dire. Donc c'est plutôt assez chouette qu'il y ait le vélo, on ne peut pas se cacher. Hein. Ouais. C'est assez compliqué quand même. Donc c'est plutôt bien.
Et alors, en fait, il y a eu un peu la même chose au Yémen. Donc le Yémen, pays en guerre, hein, bombardé par l'Arabie Saoudite et ses amis. Donc les amis, c'est tous ceux qui vendent des armes, aident ce pays, hein, la France comprise d'ailleurs, la France de M. Macron. Et je l'ai découvert dans une BD qui s'appelle Intizar en exil, qui est la suite d'une première BD qui était sortie, qui s'appelle La voiture d'Intizar. Alors, le dessinateur a changé, mais le scénariste, M. Riera, est toujours le même. Alors, c'est quelqu'un qui a vécu au Yémen un petit moment, un occidental hein, qui a vécu au Yémen, et qui a rencontré, dans le cadre de son travail, et qui a fait pas mal d'interviews de femmes yéménites, et il a eu l'idée d'inventer un personnage de fiction. Alors au départ, il voulait plutôt faire une BD avec les vrais témoignages de femmes. Elles ont toutes dit, mais non, mais si on fait ça, on est mortes. Parce que bon, la répression est très très forte sur le moindre petit début d'émancipation de la femme. Donc il a inventé un personnage fictif qui regroupe un petit peu tout ce qu'il a pu entendre de la part de ces femmes yéménites. Et dans le deuxième tome, il y a un tout petit chapitre sur le vélo. Et en fait, donc l'héroïne, qui doit rapporter des paroles qu'il a entendues, explique comment le vélo est devenu un outil de liberté pour les femmes au Yémen grâce à la guerre. Et pas grâce à la guerre. En fait, avec la guerre, il y a eu une énorme pénurie d'essence. Du coup, les problèmes pour se déplacer. Et là, à un moment, il a fallu se déplacer par ses propres moyens. Et les femmes se sont appropriées, parce que ça n'était jamais arrivé, le vélo, parce qu'elles n'avaient plus d'autres moyens de se déplacer. Et comme tu le disais, quand elles sont en voiture, c'est un mec qui conduit, c'est un mec qui est à côté d'elles, c'est un mec qui prend toutes les décisions, un peu comme en Arabie Saoudite. Sauf que là, le vélo, on est tout seul sur son vélo. Et elles ont pris un bout de liberté, finalement, grâce à cette guerre pourrie. Et ça a été, et la BD en parle aussi, portée par une femme yéménite photographe qui a lancé une campagne qui s'appelait Bike for Yemen, et qui mettait en scène, elle prenait des photos de ces femmes qui montaient à vélo pour dire, bah voilà, c'est un bout d'espace de liberté. Alors c'est petit hein, au Yémen, régime conservateur religieux absolument atroce, mais ces petits à côté un peu bizarres, et là le vélo qui a permis d'avoir un petit bout de liberté. Et elle dit, même si la guerre s'arrête, elles ont espoir qu'il n'y ait pas de recul, qu'elles puissent à nouveau continuer de se déplacer seules à vélo, ce qui serait un énorme gain pour ces femmes yéménites. Donc voilà, alors si vous avez l'occasion de lire ces BD qui sont très intéressantes, La voiture d'Intizar, je trouve beaucoup mieux la suite, Intizar en exil. Donc voilà, ça nous donne une belle image de la vie des femmes au Yémen, qui est pas facile, mais elles sont pas soumises, elles ont par derrière, elles ont plein d'idées, plein de trucs. Ce truc, c'est qu'elles sont brimées par le machisme religieux permanent qu'il y a dans ce pays. Donc voilà, c'est mes deux infos sur comment le vélo peut aider à la liberté des femmes.
Et c'est marrant comme le vélo qui a été un machin, un outil, un truc utilisé par plusieurs générations en France pour se déplacer, est tombé dans le trou de l'oubli parce qu'il ne nous rendait pas assez libres et surtout il ne nous permettait pas de montrer qu'on avait évolué socialement, hein, qu'on n'avait pas réussi, donc il a fallu acheter une bagnole. Et puis bah, maintenant on y revient à ce vélo, donc c'est presque un peu vintage hein, le vélo. Ouais. Si tu veux être branché, cher ami, achète un vélo, trouve-en un. Enfin, ça se trouve d'occasion, hein, pour pas cher. Et là, tu seras branché, tu seras vintage parce que c'est revenu à la mode.
Ouais, pas tant que ça. Quand même.
Ah non, mais quand même, quand j'entends certains propos sur le vélo, des fois, ça fait rigoler parce que c'est quand même un outil qui permet de se déplacer avant tout, pas cher, pratique et qui permet en plus d'être assez autonome finalement, quel que soit ton âge.
En plus, un outil d'une ingéniosité incroyable puisque
techniquement,
on décuple quand même la force humaine. Voilà, c'est un bel objet technique.
Alors, sinon, la basket, c'est pas mal aussi en termes de force aussi.
On va moins loin et moins vite. Mais... juste une petite info énergie environnement sur l'ambiguïté française. Il y a une bonne nouvelle. En fait, ça fait partie de la lutte contre la déforestation importée. C'est par exemple quand un agriculteur imbécile achète du soja brésilien. Il participe à la déforestation du Brésil et on appelle ça la déforestation importée. Et jusqu'à maintenant, c'était compliqué pour faire interdire l'huile de palme en France et en tout cas pour notamment en termes de biocarburant. Et là, les députés viennent de voter dans le cadre de projet de loi de finances 2019 la fin des avantages fiscaux des biocarburants à base d'huile de palme. Alors c'est un truc bizarre parce que le gouvernement était pour, était pour que ça reste, qu'il y ait des avantages fiscaux pour les agrocarburants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont potes avec Total et Total, on rappelle, hein, ils ont une belle raffinerie à La Mède pour laquelle ils importent 300 000 tonnes d'huile de palme. Donc ils voulaient surtout pas l'huile de palme soit à nouveau fiscalisée comme tout produit nocif pour la planète. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas que le gouvernement, il y avait aussi les élus de droite. C'était par exemple le cas de Christine Lavarde, sénatrice La République, Les Républicains plutôt, qui avait dit ah non, mais attention, ça va faire perdre 100 millions d'euros à Total, tout ça. Ah oui, si ça nous rappelle que les Républicains, comme La République En Marche, ils sont vraiment anti-écolo, anti-protection de l'environnement. Mais bon, vraisemblablement, contre toutes les consignes, tout ça a été voté. Donc, cette disposition est pour l'instant, cet avantage fiscal est pour l'instant supprimé, en espérant que ce soit confirmé, puisque ce n'est pas la fin de la procédure. Ça a un avantage, c'est que c'est considéré comme un biocarburant, alors que c'est un élément qui détruit la planète en tant que carburant plus que l'essence. Donc c'est un truc complètement aberrant. Voilà. Donc c'est la bonne nouvelle. Bon, il y a des chances que ça revienne dans l'autre sens et que ça soit à nouveau accepté. Mais bon, ça, on nous en reparlera si jamais ça rebascule dans le sens de la destruction de la planète.
Alors rapidement, on va finir par se moquer d'un nouveau système piraté. Ah mais j'ai l'impression que on n'est pas assez rapide dans la protection des données par rapport à l'évolution qu'on fait des systèmes de communication d'une manière générale dans le monde. Et là, c'est le New York Times qui nous raconte que des communications des diplomates de l'Union européenne ont été massivement piratées. Alors il s'agit d'échanges confidentiels qui certes ne concernent pas les codes nucléaires. Hein, on est d'accord.
Bon, il n'y en a pas au sein de l'Union européenne.
Non, mais c'était une blagounette pour dire qu'effectivement, c'est pas le but, c'est pas de récupérer ces codes, mais c'est, pour ce qu'on en sait, de l'espionnage d'État et non pas du vol de données pour faire chanter ou des vols de données pour raconter, c'est-à-dire pour publier des informations. Alors, ce qui est marrant, c'est que le New York Times nous fait quand même le plaisir de nous donner quelques extraits de ces informations qui ont été piratées. Et c'est en fait, le New York Times s'est basé sur une société qui a été montée par des anciens employés de la NSA, hein, donc de l'agence de renseignement des États-Unis d'Amérique, une boîte qui s'appelle Area One, et on apprend tout plein de choses, donc des fois c'est pas très grave, des fois ça l'est un peu plus parce que ça raconte des échanges avec des dirigeants du monde entier, et c'est en fait le système CoReU, c'est-à-dire correspondance européenne, qui a été piraté. Alors apparemment, pour ce que j'en ai compris, ils sont passés par la Chypre, pour choper quelques codes. Et ensuite, une fois qu'ils ont eu ça, ils ont ouvert grand les portes. Ça a été assez facile, apparemment, de rentrer dans le système. Alors, comme je vous le disais, c'est pas pour des raisons financières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du chantage à l'arrière. C'est pas non plus pour dévoiler, pour aller ensuite se retrouver sur des wikis, pour raconter ce que les diplomates peuvent raconter. Non, là, on pense que c'est de l'espionnage. Et alors, il y a un pays qui est visé. C'est pas la Corée du Nord.
Ah, oh mince, la Chine.
Ouais. J'allais dire, c'est pas l'Iran. Ça a été plus rapide, c'est la Chine.
Ça aurait pu être la Russie aussi.
Qui est pour l'instant pointée du doigt avec son service de renseignement pour savoir un petit peu ce qui se passerait dans les arrière-cours des diplomates européens. Bon, ça montre encore une fois qu'on est mal équipé quand même, ou alors qu'ils sont très très forts, les pirates.
Ouais, ou alors que le système est quand même fragile, quoi qu'il
c'est
arrive.
C'est ce que je dis, c'est ça. Tout ça, c'est très très fragile, et puis que peut-être on fait aussi beaucoup confiance dans les échanges par ce genre de système. Mais voilà, c'est marrant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez dit qu'il y avait le ministère de l'Intérieur qui s'était fait pirater sur un système. Là, c'est quand même le système des diplomates. Bon, ça ne marche pas trop bien, leur truc. Hein.
Non.
Voilà, c'était juste ça.
Eh bien, il est 19h56 à la pendule la plus rebelle des radios. Nous avons 4 minutes d'avance. Nous allons vous souhaiter de passer de bonnes fêtes sans le Père Noël ou avec, si vous aimez le Père Noël. Si vous aimez les.
Parce
les,
que t'es pas là la semaine prochaine.
Les hommes bedonnants à cheveux blancs, à barbe blanche,
moi, j'ai rien
habillés en rouge.
Contre les hommes bedonnants. Ah oui, habillés en rouge, ouais, c'est
avec un chapeau ridicule sur la tête.
D'accord, là je commence à me saisir.
Je vais jusqu'au bout devant un sapin de Noël.
Celui qui est coincé dans le cheminée, c'est ça?
Voilà.
D'accord.
Donc la semaine prochaine, on sera peut-être là.
Ah bah oui.
Ah bah alors.
Ah bah que je nous le souhaite. Hein.
C'est qu'on est le combien la semaine prochaine?
Le 27, non? C'est pas un truc dans le genre?
Oh ouais, on est là le 27.
Un truc dans le genre, je dirais.
Oui.
Non, mais c'est si, c'est ça, nous sommes le 20, le 27.
Nous serons donc là la semaine prochaine.
On s'engage à être là? Allez,
ouais.
On vous racontera tout plein de choses. Ouais, c'est moi qui l'ai dit, ouais,
au pire,
je prends un risque.
On fera une émission spéciale, quelque chose.
Spéciale quelque chose.
Spécial chocolat, tiens.
Voilà, voilà,
ça
voilà.
Va être compliqué.
Ouais, non, et puis on l'a déjà fait, je crois, un truc sur le chocolat. Bon, enfin, en tout cas, il se passe plein de choses hein, quand même dans le monde. N'oubliez pas de vous informer. Il y a plein d'autres moyens que d'écouter Radio Canu, bien évidemment. Nous, on est toujours pour confronter les sources et on sait que des fois, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit. Ben, c'est pas grave, parce que moi aussi, je lis des trucs avec lesquels je suis pas d'accord. Mais ça permet de mettre en miroir tout ce que les gens peuvent écrire et raconter, et c'est vachement bien. En tout cas, merci à vous si vous nous écoutez souvent, parce qu'on sait que c'est sympa. On parle moins, on a l'impression de ne pas parler dans le vide, vous voyez. Pour nous, c'est super classe. Et puis, on va vous laisser avec la suite.
La petite cuillère, hein, d'ici voilà. Deux petites minutes.
On va ouais.
Un bout de bande continue. Les Canus Info, pour vous dire, hein, c'est quand même tous les jours de la semaine, 19h, ouais. 20h. Demain, il y a une autre équipe, l'équipe du...
Vendredi.
Et lundi, il y a l'équipe du
lundi.
C'est quand même bien
c'est
fait.
C'est bien fait, Canu.
Ouais, c'est très rationnel. Hein. Nous, on est à fond dedans.
Voilà.
Et donc voilà, on se retrouve donc nous la semaine prochaine.
Et ben, on vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.
Bye, bye.